en tant que bibliothécaire du musée, et en l'absence du directeur Gérard Audinet, qui essaiera de passer en fin d'après-midi, mais qui vous souhaite d'ores et déjà vraiment un chaleureux bienvenue et souhaite que vous passiez une excellente journée. Moi, je voulais remercier spécialement les spécialistes de Hugo qui ont répondu favorablement à l'invitation de Bernard Fournier et qui vont nous permettre de voyager un petit peu dans le XXe siècle, pas seulement dans le XIXe siècle, et sur les pas donc d'Audi Berthier et de ses multiples talents. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc dans la programmation, beaucoup de thèmes vont être abordés. Et donc voilà, je pense que l'essentiel c'est de commencer.
On va commencer. Donc, mesdames et messieurs, je tiens à saluer bien sûr M. Audinet, représenté par Mme Rouzière, également Marie-Louise Audiverti qui ne peut pas venir hélas, mais qui est bien représentée par son petit-fils Laurent et sa petite fille Géraldine que je ne vois plus.
Qui est là-bas,
d'accord. Donc je remercie également les contributeurs, mesdames et messieurs. Donc bon, c'est un peu. Pas mal d'émotions que je prends la parole aussi dans cette maison Victor Hugo, au nom de l'association des amis de Jacques Audiverti. On a environ 50 personnes qui vont venir, donc je suis assez impressionné. Et je voudrais donc particulièrement remercier Mme Rouzière, qui a fait plus que bien m'accueillir, avec qui nous avons eu l'idée de cette journée il y a maintenant pas loin d'un an et demi. Et aussi Mme Florence Claval, avec qui nous avons réglé tous les problèmes de administratifs et matériels. Alors cet événement se place dans le droit fil des événements que nous avons organisés pour fêter les 60e anniversaire de la mort d'Audiverti. Et il y a 15 jours, nous avons eu ce qu'on a appelé un anti-colloque à la mairie du 6e arrondissement, où quelques Audiverciens ont pu parler de leur Audiverti, donc quelque chose d'un peu particulier. Alors aujourd'hui, cette journée d'étude, est-ce un colloque ou peut-être même un anti-colloque, je ne sais pas, nous verrons cela. Alors Audiverti est sans doute le meilleur épigone de Victor Hugo, ayant appris de lui le théâtre, la poésie, le roman et même le journalisme. Si on ne présente pas l'auteur de la Légende des siècles ici, bien sûr, il importe de rappeler qui fut Audiverti, de lire et de relire ses 16 romans, 11 recueils de poèmes, 26 pièces de théâtre, dont la plus célèbre Malcourt est souvent encore dans les mémoires. Tous les deux sont poètes essentiellement, tous les deux s'inscrivent dans cette lignée d'écrivains pour qui le social compte, même si Audiverti se veut simplement, je cite, le spectateur volage de la machine sociale. Tous les deux sont des poètes inspirés, des héros, des théopes. On expliquera ce mot un peu plus tard. Comme beaucoup de poètes et romanciers nés au début du siècle, Audiverti a été nourri très tôt par l'œuvre de Victor Hugo. À cet égard, je laisse un peu la parole à Laurent Petit, son petit-fils, qui a un mot de Marie-Louise.
Oui, j'ai un message pour vous de ma mère Marie-Louise Audiverti, qui est la fille cadette de Jacques Audiverti. Elle a juste un petit message pour notre colloque. Elle se souvient encore d'avoir vu chez son grand-père maçon à Antibes, entre l'Almanach Vermeaux et d'autres livres plus lestes, toute la collection Victor Hugo dans l'édition Nelson. Le jeune Jacques Audiverti se l'était donc procuré de très bonne heure. Je vous dis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ma mère n'a pas écrit sur Victor Hugo, mais elle a écrit « L'exilé, Adèle Hugo, la fille ». C'est une petite fierté qu'elle a d'avoir écrit également sur la fille, au lieu d'écrire sur le père.
Donc voilà, on va commencer. Vous connaissez le programme, je le rappelle très brièvement. Donc Jordi Bram Marin nous va nous dire comment Victor Hugo, Audiverti se rêve en Victor Hugo, et Agnès Sandra nous en démontrera comment il s'en croit être la réincarnation. Victor Hugo comme Audiverti rêvent tous deux à la manière de bien faire représenter le théâtre, et donc Madame Gazzigliola Lasser nous dira comment, et quant à moi je dirai comment aussi il rêve de Napoléon. Et enfin Hélène Cushman et Frédéric Pagès, cet après-midi, nous révélerons le côté artistique tant dans le domaine de la musique que dans le dessin. Voilà, nous commençons.
Alors, je vous présente Jordi Bramchamarin, qui est maître de conférence en littérature française à l'Université de Caen depuis septembre 2025, donc depuis pas longtemps. Ses domaines de spécialité sont littérature française des 19e et 20e siècles, Victor Hugo, la Commune de Paris, Apollinaire, Humanité numérique. Il a fait une thèse à la réception critique de la poésie de Victor Hugo en France de 1914 à 1944, soutenue à l'Université du Mans en 2018 sous la direction de Franck Laurent. Il a publié La Commune des écrivains, Paris 1871, Vivre et écrire l'insurrection, publié chez Gallimard en 2021, en folio classique, avec Alice de Charentenay. La réception critique de la poésie de Victor Hugo en France, donc, qui est sa thèse, a été publiée en 2025 aux presses universitaires de Rennes. Il va publier très bientôt Apollinaire, œuvre choisie, chez Gallimard, dans la collection Quarto, choix des textes, préfaces, chronologie, iconographie, notices et notes.
Merci beaucoup, Monsieur Fournier, pour cette invitation. Donc dans cette communication liminaire que j'ai l'honneur et le plaisir de prononcer, je vous propose non pas exactement un parcours dans l'œuvre de Diverti, mais plutôt un grand écart. Un retour sur deux poèmes, VH et Hugo, qui figurent dans deux recueils situés aux extrémités chronologiques de son œuvre. Paru dans la NRF en 1935, VH est repris dans Race des hommes, un recueil publié en 1937 chez Gallimard, et premier vrai livre de Diverti, si on exclut ceux précédemment parus à compte d'auteur. Le poème Hugo, quant à lui, figure en 1964 dans le recueil Ange aux entrailles, dernier recueil de vers publié du vivant de l'auteur, mais le texte figurait déjà presque intégralement, avec une autre disposition typographique, dans un article en prose de la revue La Parisienne en 1956. 1935-1964 donc, deux textes situés de part et d'autre d'une œuvre poétique où Diverti, comme le rappelle Agnès Piquel dans un article sur lequel je pense qu'on reviendra beaucoup lors de cette journée, n'a cessé de reprendre et de travailler son rapport à Hugo, rapport d'admiration et de révérence, d'identification parfois, d'agacement aussi quelquefois et de fascination certainement. Ces deux textes que j'ai fait circuler, donc que vous avez soit sous les yeux, soit à côté de vous, a priori, sont prélevés dans un vaste ensemble de textes de Diverti sur Hugo, prélevés pas tout à fait arbitrairement, je crois, dans la mesure où ils sont, à ma connaissance, les deux seuls textes en vers, les deux seuls textes donc où Diverti se confronte au poète en poète, et donc en quelque sorte de plein pied avec lui. Mon ambition dans cette communication, quoique modeste, sera triple. Il s'agira d'abord de mettre ces textes en rapport avec l'œuvre de Diverti, que beaucoup ici, bien sûr, connaissent infiniment mieux que moi. Il s'agira aussi de les situer dans leur environnement de publication immédiat, c'est-à-dire dans leurs recueils respectifs, et particulièrement dans la série ou la petite séquence de poèmes qui les entoure et qui est souvent signifiante. Et il s'agira enfin, et c'est là peut-être que j'ai spécifiquement quelque chose à apporter en tant que spécialiste, comme Mme Gazi-Galaster l'a rappelé, de la réception de Hugo, de voir en quoi le discours de Diverti sur Hugo se rapproche ou au contraire se distingue d'autres discours critiques sur Hugo qui circulent au moment où il écrit ou un peu avant le moment où il écrit. Pour ce faire, il m'a paru plus commode de prendre un poème puis l'autre, même si, bien entendu, je m'attacherai aussi, surtout à l'occasion de l'examen du second, à les mettre l'un et l'autre en regard et en dialogue. Alors je commence donc par VH, poème paru en 1935 dans la NRF et repris en 1937 dans le recueil Race des hommes. La version que vous avez sous les yeux, c'est celle du recueil Race des hommes dans la collection Poésie Gallimard. VH compte 13 cisins d'alexandrin à rime tripartite, AABCCB, schéma métrique que Hugo affectionnait particulièrement, comme le rappelle Agnès Piquel, mais notons quand même que ce schéma de rime n'a rien d'exceptionnel dans les poèmes écrits par Diverti à l'époque. Dans Race des hommes, VH est précédé ou suivi à peu de distance d'autres poèmes écrits selon ce schéma métrique. Sennachérib, Sémiramis et Salomon, avant VH, et AB, A.B., les initiales, un peu après VH. Cette séquence est significative parce que, d'une part, le poème sur Hugo se trouve donc inclus dans une série de poèmes sur des rois et reines bibliques, hein, Sennachérib, Sémiramis, Salomon, et puis une série qui est élargie par d'autres poèmes à thématique religieuse, avec Muezzin notamment, mais Muezzin aussi n'a pas le même schéma métrique, et d'autre part parce que VH voisine avec un autre poème portant sur un poète, AB, qui est un hommage à André Breton, analysé naguère par Anne-Marie Amiot, dans les actes du colloque du centenaire. Les deux titres fondés sur des initiales, VH et AB, se font naturellement écho, sont en miroir, même si le fonctionnement des deux titres est un peu différent en réalité. AB ressemble à une énigme. André Breton ne s'y laisse reconnaître que par des allusions à son œuvre, et le premier vers a même pour fonction d'égarer ludiquement le lecteur. Voilà, en proposant. Non, mais je vous en prie. En proposant une interprétation, l'heure du titre. Je suis Arnaud Bascard, seigneur du château Blême. VH, au contraire, est identifié comme Victor Hugo dans le poème. Son nom figure, entre guillemets, et comme un mot autonyme dans la septième strophe que vous avez sous les yeux. Ces prophétiques noms que ta démence ausculte hurle Victor Hugo quand tu te rends ce culte énorme dont le monde entre tes poings sourit. Pas vraiment d'énigme donc ici, ou alors très vite résolu. Plutôt une manière de laisser entendre que la notoriété du poète est si grande que ses initiales peuvent se passer d'explicitation. Et une manière aussi de jouer avec son nom, avec la matière verbale de son nom, avec les lettres de son nom. Comme le poème Hugo dans Ange aux entrailles le fera de manière plus systématique. Et comme Hugo, bien entendu, le faisait aussi lui-même si souvent, son H signature est très fréquent dans ses textes comme dans ses dessins. Mais si on le compare avec les autres poèmes de la série dont j'ai parlé, VH s'en distingue sur un point important. Il n'est pas écrit à la première personne. « Je suis Sennachérib, prince des certitudes », annonce le premier vers du poème portant sur ce roi assyrien évoqué dans le Livre des Rois. « Je suis Sémiramis, reine des Hespérides », dit le personnage éponyme du poème Sémiramis. « Je sache enfin pourquoi nul mort ne m'exauce », réclame ensuite Salomon. « Je suis Arnaud Bascard », dit par jeu André Breton. VH, en revanche, est le seul de la série à ne pas avoir droit à sa prosopopée. Le poète s'adresse à lui à la deuxième personne, sauf dans la quatrième strophe, marquée par un passage à la troisième personne, le magique habitant du rite confiscable. Un tel choix énonciatif permet au poète de varier les positionnements, de travailler l'ambiguïté ou l'ambivalence de son rapport à Hugo. L'admiration, perceptible à la seconde strophe, « Tu détiens chez la mort le secret de tes songes », laisse place à une agressivité notable, qui s'exprime par exemple au début de la strophe 5 de manière très claire, « Je te démasquerai, toi qui permets qu'on t'aime », agressivité qui avait déjà annoncé discrètement le qualificatif de sournois dans la première strophe et qui avait été réitérée quoique au discours rapporté, donc pas dans la bouche du poète Audiberti, à la strophe 3, avec les insultes qui résonnent avec toute une tradition hugophobe, hein, « Avare, boursouflé, rat d'auteur, ah qu'il laisse en repos les bagnards à la terre attelée ». Audiberti profite bel et bien de ce poème pour dire ses quatre vérités à Hugo, comme il l'écrit à Pollan dans une lettre contemporaine de la rédaction du poème. Puis, dans la strophe 8, c'est un remerciement. « Je te sais gré, Dieu juif, maçon et catholique », suivi de constats qui, en revanche, eux, ressemblent parfois à des reproches. Hugo se serait-il absenté, aurait-il déserté le monde et manqué à sa mission? Le « tu te tais » méditatif de l'avant-dernière strophe porte en lui quelque chose de pessimiste et de découragé. Pessimisme à nouveau infléchi, voire annulé, par les derniers vers. Ton ombrage de fer trop de moqueurs abrite, pour que jamais s'écroulent tes châteaux plus tintants que des bières. En somme, avec toutes ces variations de positionnement, hein, il a sans doute paru plus facile à Audiberti, à ce moment de sa carrière littéraire en tout cas, c'est-à-dire à son début, de parler à Hugo que de parler de Hugo, ou que de parler comme Hugo. La prosopopée hugolienne viendra à son tour, en 56, dans l'article de La Parisienne dont j'ai parlé, et ensuite dans le poème qui en est tiré dans Ange aux entrailles, avec à chaque fois un humour et une fantaisie qui désamorcent d'ailleurs ce que le choix de la prosopopée pourrait avoir d'audacieux ou de grandiloquent. Mais en 35 dans la NRF et en 37 dans Race des Hommes, c'est plutôt par l'interpellation, tantôt respectueuse, tantôt accusatoire, qu'il s'agit de clarifier un rapport de poète à poète. Car de quoi s'agit-il dans ce poème? Des pouvoirs du poète, du théope, d'après le néologisme proposé dans La pluie sur les boulevards. Pouvoir surhumain, divin. Hugo est l'instigateur des flots, le magique habitant du rythme inconfiscable, qui détient chez la mort le secret de ses songes, qui fait les harpes mugir sous ses paumes divines, mieux encore, qui traverse le ciel qu'il applaudit, et qui se rend à soi-même ce culte énorme dont le monde entre ses poings sourit. Bref, Hugo est Dieu, et un Dieu total, syncrétique, Dieu juif, maçon et catholique. La divinité de Hugo dans le poème est inséparable d'un amour à lui porté, de prophète l'annonçant, Moïse, Michel-Ange, Homère, Alighieri, un culte à lui rendu. Ce thème du poète Dieu, très original en fait, hein, parce que Hugo prophète, Hugo mage, ça circule dans la critique savante de l'époque, et ça, c'est évidemment présent chez Hugo lui-même, mais Hugo Dieu, ça va un cran plus loin, et ça c'est une invention, je crois, d'Audiberti. Ce thème du poète Dieu s'articule dans VH à celui de la mission, voire de la responsabilité sociale du poète. Grand thème hugolien, bien sûr, mais qui ici, articulé au thème du poète Dieu, suppose une série de changements d'échelle et de point de vue qui donne un peu le vertige. Car pour tenir ensemble les deux thèmes, Hugo Dieu et Hugo engagé dans sa mission sociale, il faut assumer brutalement que ce Dieu-là, comme celui des chrétiens, s'est fait homme, et le plus normal des hommes, comme le dit la strophe 9, je te sais Dieu juif, maçon et catholique, de mettre ce chapeau pour hanter notre clique et ses souliers mortels pour chérir nos faubourgs. La perspective de l'émancipation sociale qui s'exprime à la strophe 10 par une allusion au misérable, hein, tuteur de l'orpheline et du tendre forçat, Cosette Jean Valjean, se conjoint spectaculairement à une perspective d'ordre eschatologique qui s'appuie cette fois sur une allusion au poème Dieu, que Audi Berthier aimait beaucoup, tu ramenais des gouffres carrossables d'angéliques bouquets d'anges et de vautours, ou sur des images cosmiques, les cratères d'azur versant le lait du jour, etc. Alors sans refaire intégralement la démonstration d'Agnès Piquel, qui met en lien cette figure de la divinisation du poète Théope avec la pensée esthétique sous-jacente de Liberty, soulignons au moins ici à quel point cette image d'un Hugo, non pas prophète, mais Dieu, est idiosyncrasique, et à quel point est bizarre, mais d'une bizarrerie, d'une fantaisie tout audibertienne, me semble-t-il, la juxtaposition d'images tantôt terre à terre, tantôt grandioses et souvent étonnantes, comiques, voire surréalistes, qui sert à dire cette toute-puissance terrestre et supraterrestre de Hugo. Je dis voire surréaliste en pensant par exemple à la toute fin du poème, profère dans l'espace insoluble et livide, les ponts commémorés où s'avance le vide en casaquin brodé d'arbres et de poissons. Je pense que Breton n'aurait pas refusé cette image de casaquin brodé d'arbres et de poissons, difficile à comprendre, mais fortement suggestive. Alors, je voudrais, maintenant que j'ai en fait, je fais un petit pas antéchronologique, parce que j'ai parlé là du poème qui, tel qu'il figure dans Race des Hommes, je voudrais faire un petit pas en arrière et revenir à sa publication dans la NRF. Alors le texte est le même, il n'y a pas de variation de texte entre la version en revue et la version en recueil, mais le contexte de publication est différent, et il est intéressant du point de vue de ce que fait Audi Berthier quand il publie un tel poème dans la NRF. Donc le poème VH apparu dans la Nouvelle Revue Française le 1er juillet 1935, à une date où on est en train de finir la période des commémorations du cinquantenaire de Hugo. Hugo est mort le 22 mai 1985, donc c'est en mai et en juin 1935 qu'on célèbre son cinquantenaire avec le plus de faste, et donc début juillet, fin juin, début juillet, on commence à en tirer le bilan. Donc il y a une raison contextuelle qui fait que Audi Berthier s'intéresse à Hugo à cette époque, mais en revanche, il y a quelque chose d'un peu iconoclaste, en tout cas d'un peu surprenant, dans le fait de publier un tel texte dans une telle revue, dans la NRF. Parce que la NRF de l'entre-deux-guerres n'est pas a priori disposée à manifester une quelconque hugolatrie. Le texte manifeste de Jacques Rivière en 19, le texte manifeste de la revue, proclamait ainsi simultanément la caducité du romantisme et la nécessaire séparation de l'ordre littéraire d'avec l'ordre politique, parti pris qui ne favorisait pas évidemment la bienveillance envers une œuvre aussi explicitement militante que celle de Hugo. Si le classicisme moderne, sous la bannière duquel Gide s'est placé par exemple, a des aspects écuméniques et intégrateurs, reste que dans l'ensemble, le rapport de la NRF à Hugo, tel que l'exprime la plume du grand critique Albert Thibaudet dans les années 20 et 30, relève plutôt de l'indifférence polie, de la sympathie lucide et un peu réservée, soucieuse de se démarquer aussi bien d'une aversion trop franche que d'un enthousiasme trop convenu et trop naïf. Cette ligne éditoriale de réserve et d'ambivalence transparaît dans une notule de Jean Paulhan, donc grand correspondant d'Audi Berthier, comme vous savez, publiée sous le nom de Jean Guérin, dans le même numéro que le poème d'Audi Berthier. Et l'écho entre les deux est intéressant. La note de Paulhan s'attache à critiquer les hommages officiels par lesquels on se contente de célébrer l'image routinière et enquistée d'un Hugo républicain. Ces hommages, selon Paulhan, ne constituent guère que des tentatives de justifier un goût pour Hugo. Il ressemble, note spirituellement le critique, à des explications de vote. À ce Hugo, simple, clair, plein de bon sens, facilement enrôlable à des fins de célébration républicaine consensuelle, Paulhan, Guérin-Paulhan, oppose, mais en une ligne, de manière suggestive et sans y insister, le Hugo qu'il appelle obscur, subtil et non sans folie. Obscur, subtil et non sans folie, terme axiologiquement ambigu qui marque en même temps l'élan et la réserve, et surtout qui s'applique largement autant qu'à Hugo lui-même, au poème qu'Audi Berthier publie dans le même numéro. On peut lire ce petit texte de Paulhan, non pas comme une explication de vote, mais comme une présentation implicite du texte d'Audi Berthier qui le précède dans le numéro, et comme une manière peut-être aussi de justifier la présence d'un tel hommage dans une telle revue, par contraste avec la masse des hommages gouvernementaux et lénifiants. Obscur, subtil et non sans folie. Tel est en effet le Hugo de Paulhan, tel est le Hugo d'Audi Berthier, je vais y revenir, et tel est aussi le Hugo que redécouvre à l'époque un certain nombre de critiques qui veulent en quelque sorte le dépoussiérer. Et c'est bien dans ce mouvement global que s'inscrit ici Audi Berthier. On a redécouvert dans les années 20, sous l'impulsion de Gustave Simon, le Hugo spirit qui faisait parler les tables, plusieurs universitaires, Denis Saurat, Claudius Grillet, Albert Béguin, Marcel Raymond et d'autres, mais aussi plusieurs poètes surréalistes, à commencer par André Breton, commencent sur cette base à explorer, à partir des contemplations de Dieu ou de la fin de Satan, toutes œuvres que Audy Berthy aimait beaucoup, un Hugo voyant, mystique, explorateur des gouffres et des abîmes, qui s'apparente plus à Rimbaud ou à Mallarmé qu'à Lamartine ou à Musset. Le poème d'Audy Berthy se laisse lire à la fois à la lumière de cette formule de Pollan et à celle des récentes redécouvertes de ce Hugo spirit, voyant, métaphysique. Le thème d'un Hugo obscur est un thème d'époque en particulier, abondamment traité par les critiques que j'ai énumérées et suggérées d'ailleurs par le titre même du poème « Ce que dit la bouche d'ombre » dans les contemplations qui sert de pivot à ces relectures de Hugo. Chez ces auteurs qui parlent du Hugo obscur, il ne s'agit pas tant de viser un hermétisme syntaxique ou lexical à la Mallarmé que de faire droit à la part de mystère qui entoure les conceptions métaphysiques, voire religieuses, que Hugo dégage de son expérience d'étable et qu'il exprime dans divers poèmes. Panthéisme, métempsychose, échelle des êtres, expiation et pardon universel, rôle du poète mage. Et une métaphore obsédante chez ces auteurs et ces critiques est celle des gouffres, des abîmes, des ténèbres. Il y a un article là-dessus de Gabriel Bounour qui s'appelle « Abîme de Victor Hugo » par exemple. Puisque c'est au terme d'une plongée dans d'énigmatiques profondeurs que Hugo est supposé ramener parmi nous ses formidables intuitions. Et de cela on retrouve l'écho dans le poème d'Audy Berthy, dès la deuxième strophe et la première phrase du poème, tu détiens chez la mort le secret de tes songes, le bizarre rossement qu'en silence tu ronges, le mot hors de tes puits, ronde, rude contre les airs. Je crois que ce puits porte la trace de ce thème du gouffre ou de l'abîme. On retrouve aussi l'image plus loin dans le poème, avec cette image déjà citée, des gouffres carrossables, étrange oxymore, d'où il s'agit de rapporter des astres et des vautours. Mais chez Audy Berthy toutefois, ce thème de l'obscurité est redoublé par l'hermétisme linguistique. Si VH n'est certes pas le poème le plus difficile parmi ceux que compte Race des Hommes, reste que certains passages en sont délicats à élucider, le poète travaillant à une opacification du sens selon des procédés bien identifiés par Christine Van Rover-Andreucci à propos de des tonnes de semences dans les actes du centenaire, du colloque du centenaire. Il s'agit donc bien ici de parler d'un poète obscur, ou plutôt à un poète obscur, d'une manière elle-même obscure, quoique différemment obscure. La divinité, en un mot, ne va pas sans mystère. Quant à la folie, elle aussi, elle est autant celle de Hugo que celle d'Audy Berthy. Sans doute Hugo a-t-il lui-même parfois vu et pensé, dans son William Shakespeare par exemple, les tangences, les points de contact entre folie et génie. Et sans doute le Hugo spirit, métaphysicien, voire selon Denis Saurat, fondateur de religion, qui est à la mode dans les années 20 et 30, a-t-il pu s'attirer le soupçon d'être un peu fou. Mais Audy Berthy aussi se fait fou, avec ses images bigarrées, chatoyantes et énigmatiques, volontairement incohérentes, ou en tout cas heurtées, dont j'ai déjà parlé, comme avec ces images. Et puis aussi, il se fait fou avec cette idée saugrenue et blasphématoire, faire de Victor Hugo un dieu. C'est à cette condition-là, au prix d'un dérèglement de tous les sens, comme dirait Rimbaud, mais en premier lieu d'un dérèglement du sens commun et du bon sens, au prix d'une opacification du signifiant et d'un délire verbal, que l'on peut, en 35, récupérer Hugo, c'est-à-dire l'arracher aux routines scolaires, aux éloges gouvernementaux, aux enrôlements partisans. Et cela, c'est un coup de force, permis bien sûr par l'amitié entre Audy Berthy et Pollan et par la bienveillance amicale de Pollan. C'est un coup de force donc jusque dans les colonnes de la NRF, qui n'était pas a priori le lieu le plus évident pour accueillir un tel texte. Alors j'irai un peu plus vite sur le second poème dont j'ai promis de parler, Hugo, publié une première fois dans un texte en prose en 56, et repris dans La Parisienne, et repris dans Ange aux entrailles en 64. Cette fois, dans le contexte immédiat du recueil, Hugo n'est pas entouré de rois bibliques, mais de poètes et d'écrivains. Donc, c'est le poème 25 du recueil, comme vous le voyez. Le poème 24 s'appelle Nouba, et c'est une adresse du jeu lyrique à des poètes qui l'accueillent chez lui, gamin chamarré d'écriture, enfant pâle dont chacun se crut quelqu'un. Et parmi ces poètes que le jeu lyrique, Audy Berthy, plus ou moins, accueille chez lui, Hugo est le premier nommé et le premier accueilli dans une strophe aimable, au possessif chaleureux, dans laquelle Audy Berthy se place humblement sous le jugement de son prédécesseur. Salut Victor, lion aux yeux de lièvre, ô mon Hugo d'antan, l'empereur de la Bièvre, ô mon prophète, fier de ce que j'eusse dit. Suivront dans le poème Nouba, Baudelaire, Edmond Rostand et Dante, liste aussi hétérogène qu'elle est courte. Après Nouba vient une série de poèmes qui ont pour titre un nom d'écrivain, un peu moins courte que la liste de Nouba, mais assez hétérogène quand même. Hugo, donc, Charles Baudelaire, Fargue, Cocteau, Molière, Louis Aragon, Racine. Hugo, donc il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas de classement générique clair, mais en tout cas, Hugo figure à nouveau en tête, signe d'une indiscutable préséance dans le panthéon littéraire d'Audiberti. Cette fois, Audiberti assume la prosopopée. Et ce faisant, il emprunte à Hugo des traits stylistiques majeurs, à savoir le travail de la copia, de l'abondance, du flux, de la longue coulée. Davantage, me semble-t-il, que la plupart des autres poèmes d'Audiberti, celui-ci semble appeler une lecture un peu hâtée. Les obscurités résiduelles ne suffisent pas à brouiller fondamentalement le sens et la structure du texte, qui sont suffisamment clairs, notamment parce qu'ils sont à la fois élucidés par le quatrain initial, qui explique très clairement le programme du poème, et soutenus par les anaphores « j'appelle la forme U » et « j'appelle la forme Go ». Donc les choses sont assez claires, en fait, dans ce poème. Le poème utilise en outre un maître inhabituel, le vers de 14 syllabes, mais divisé sur la page, vous le voyez, en deux hémistiches de 7 syllabes disposées en escalier. Donc on a des pseudo-heptasyllabes qui induisent une impression de déséquilibre et qui elles-mêmes favorisent un effet de fuite en avant ou de course. C'est ce que signale malicieusement le poème lui-même, qui s'autorise au passage à un calembour. Hugo est écrit dans un rythme impair de France, avançant dès lors qu'il boite. Donc on a une sorte d'imitation stylistique indirecte de Hugo, parce que Hugo c'est le poète de la copia, de l'abondance, du flux, ça peut lui être soit porté à son crédit, soit reproché d'ailleurs, et ici Audiberti imite quelque chose de cet ordre avec ses moyens propres, qui ne sont pas tout à fait ceux de Hugo, mais qui sont des siens. L'article de La Parisienne, d'où ce poème est extrait, imitait un discours parlementaire de Hugo, dans lequel celui-ci, avec une grande simplicité, revendiquait d'être Dieu. Plus exactement, le poème d'Ange aux entrailles reprend en l'explicitant et en la systématisant l'opposition ou la complémentarité entre une nature divine et une nature humaine que l'on avait déjà vue à l'œuvre dans VH. Cette opposition est posée dès le quatrain initial, que je lis en italique. U signifie et reproduit humanité, mais avec la hache aspirée à la burgonde. Dans Go, le teuton Goth advient répercuté, ainsi mon nom, avec orgueil. J'aime qu'il gronde. Le quatrain s'achève d'ailleurs sur un trimètre romantique qui lexicalement ne pourrait pas être de Hugo, Hugo n'aurait pas écrit ça, mais le rythme de l'alexandrin est un peu hugolien quand même. Cette manière de faire parler le nom de Hugo comme un rébus, de déployer des associations phoniques et sémantiques sur les signifiants, est bien dans la manière de Hugo lui-même, fort enclin à traquer ce genre de signes cratyliques. Dans le poème Hugo, le poète, Hugo donc, qui parle en jeu, appelle successivement deux formes de son nom. J'appelle la forme U, déclare performativement le premier vers et d'autres à sa suite, enfin le cinquième vers si on exclut le quatrain initial, ou le cinquième sinon. Et la forme U, c'est la dimension humaine, calculatrice, raisonnable de l'existence. Elle occupe les 30 premiers vers. Suite à quoi, après une ligne de blanc, s'ouvre une deuxième partie du poème, de 30 vers également, où c'est cette fois le mantra « J'appelle la forme Go » qui rythme le poème, la forme Go, c'est-à-dire le divin, le surnaturel, le mystérieux, ce qui échappe à la raison. La première partie, et c'est normal vu son thème, est probablement la moins suggestive. Elle contient des références à la science, le mot science apparaît, on a aussi une périphrase avec « ce que monge, ampère et chose, stocker sous votre front ». On a des allusions aux irréductibles maths, aux conquérantes chimies, ou encore à l'arithmétique boursière, aux grecques académies, ou aux claviers de Bach, bien tempérés comme on sait. La seconde partie, parce qu'en même temps qu'au divin, elle entretient aussi un rapport privilégié à la poésie et à l'image poétique, ne s'ouvre pas directement sur la convocation « j'appelle la forme Go », mais sur une série d'images et de métaphores qui ne me paraissent pas immédiatement élucidables. Maigrondé, citron laiteux de Saint-Marc à la mosquée, sonner saxophone blond de la fourrure musquée, entonner dans les buissons, la marseillaise du nid, insectes intelligents qui percevaient l'infini. Cette seconde partie se distingue surtout de la première en ceci que le personnage Hugo s'y met en scène. C'est-à-dire que c'est une forme... Non, il s'y met en scène comme Dieu et pas comme homme, enfin comme dans sa nature divine. Et donc c'est une sorte de portrait fragmentaire du poète Dieu, du Théope, qui se donne dès lors à lire. Et donc, quels sont les attributs du poète Théope? La lyre, très classiquement, sur laquelle dont il est question au début de la deuxième partie... J'ai pas réécrit le vers, mais je l'ai plus là. Enfin, bon, bref. Voilà, vous l'avez. Oui, c'est ça. La lyre dans tous les sens. Et alors, où s'entend peut-être d'ailleurs aussi encore un écho rimbaldien. Le poète est ensuite caractérisé par un esprit qui resplendit en perpétuel et frénétique mouvement, puisque l'esprit ne resplendit qu'à condition de ne pas se poser. On n'imagine pas Hugo ou son esprit immobile, pas plus ici que dans VH. la mobilité, hein, dans VH, on se souvient qu'on avait le thème du poète qui traversait le ciel. La mobilité, c'est-à-dire l'insituabilité, à commencer par celle de sa nature, humaine ou divine, semble être une caractéristique du théâtre. À se poser, en effet, l'esprit s'exilerait de l'exil, formule ramassée, étrange, mais qui figure dans le poème, s'exilerait de l'exil, quitterait cet exil qui est son ample château, manière de dire, me semble-t-il, que Hugo appartient à l'exil, qu'il n'est poète qu'en étant ailleurs, outre-mer ou outre-tombe, cliché, là encore, de la critique la plus contemporaine, celle d'un Albert Béguin ou d'un Marcel Raymond, pour qui l'exil de Hugo dans les îles anglo-normandes est la figure d'une extranéité ou d'une inadéquation foncière à son siècle et d'un écart qui lui laisse tout loisir pour se livrer à la contemplation des abîmes et des misères. Cette expression est de Marcel Raymond. Plus loin, le poète est encore défini par sa suprême solitude, expression qui paraphrase l'exil, puis, je le note, ramené à une voix, non pas un corps, une présence, mais une voix, qui nous provient précisément d'outre-mer, de l'exil, et d'outre-tombe, puisqu'on parle de sa voix résonnant hors de la mort. D'outre-tombe à deux titres. D'une part parce que Hugo est mort quand Auliberti écrit, bien sûr, mais d'autre part aussi parce que Hugo a lui-même, dans ses poèmes métaphysiques les plus étranges, ventriloqué les morts et les esprits. Donc il y a une sorte de double niveau de lecture sur cette allusion à la voix hugolienne d'outre-tombe. La puissance poétique et démiurgique de cette voix repose sur ceci qu'elle tient, elle-même lieu de preuve, qu'elle se suffit à elle-même. Nous ne sommes donc plus cette fois dans le registre de la science abandonné à la première partie du poème. Elle fait exister dans une énorme vague sans preuve la planète antique, peut-être les astres bagnes des contemplations, et la montgolfière neuve, sans doute le ballon du poème plein ciel. Les deux derniers vers du poème sont les seuls ajoutés par rapport à l'article de La Parisienne. Je les lis en entier. Alors, je compte comme un vers un ensemble de 14 syllabes. Hein. Je peux dire que les morceaux de sel sont des hémistiches. « Si vous avez entendu ma voix où la gloire abonde, vous me connaissez l'auteur du Fils de l'homme et du monde. » On retrouve ici bien des fils précédemment tissés. Le Hugo-Dieu, naturellement, avec l'écho biblique final, et le Hugo-voix, ma voix où la gloire abonde. Mais prêtons un instant attention à ce « si vous avez entendu » presque ludique qui ouvre le distique. Il faut entendre, c'est-à-dire aussi comprendre, malgré les obscurités, les hermétismes, les bizarreries, les mystères, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez entendu, ce n'est pas vous qui avez entendu. Si vous avez entendu. Il y a un côté happy few dans le fait d'entendre ce que le poème, ce que Hugo et ce que Auliberti ont à dire. Le poète Théope, à l'instar évidemment d'Auliberti lui-même, semble ici caractérisé par son ésotérisme. Alors je conclurai en rappelant que la particularité de ces deux textes, dans l'ensemble de ceux que Auliberti a consacrés à Hugo, c'est que ce sont précisément des textes poétiques, des textes qui parlent d'un poète, d'une poésie, d'une voix, avec les moyens mêmes de la poésie. Autrement dit, des mises en abîme, si j'ose dire, et à tous les sens du terme abîme. Il est tentant, possible, fécond, de se demander alors dans quelle mesure Auliberti, parlant de Hugo, ne parle pas aussi de lui, de sa propre poésie, de sa propre obscurité, de sa propre folie. Dans un poème de La pluie sur les boulevards, « Je suis le sang de la terre », Auliberti parle de l'ami Victor Hugo qui ne sait plus, moi vivant, s'il est mort. Alors d'abord, je note l'ami Victor Hugo, hein, cette dimension amicale du rapport entre Auliberti et Hugo qu'on sentait déjà dans Nouba, est probablement un aspect, pas forcément le plus saillant, mais un aspect quand même de sa relation à Hugo. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié qui est thématisé dans les poèmes de Hugo, enfin d'Auliberti sur Hugo. Mais si on prend cette phrase pour ce qu'elle dit, « L'ami Victor Hugo qui ne sait plus, moi vivant, s'il est mort », comme le note Agnès Piquel, Auliberti se pense ici presque comme une réincarnation de Hugo. Hein. Et en dépit de toutes les différences qui séparent les deux auteurs, on a pu voir dans les thèmes comme dans le style, parfois, quelque chose comme des échos ou des influences. Alors, là où toutefois, peut-être, où les deux auteurs se séparent, mais je lance ceci comme une hypothèse. Hein. Je ne voudrais pas froisser les Audibertiens en disant cela, et j'aurais plaisir à être réfuté ou contredit si j'ai tort, c'est que chez Auliberti, il me semble que la folie, l'hermétisme, l'obscurité tournent plus souvent que chez Hugo au jeu, et à la fantaisie, au ludique en tout cas. Alors, bien sûr, il y a aussi du jeu et de la fantaisie chez Hugo, mais je ne suis pas sûr de sentir chez lui, au même degré que chez son prédécesseur, une sorte d'urgence. Le mot était dans le poème VH, hein, les choses urgentes. Une urgence philosophique, métaphysique, éthique qui l'obligerait, comme il le fait, à dérégler les signifiants, à mettre les signifiants à la torture. Dans VH, comme dans Hugo, comme dans d'autres poèmes d'Auliberti que j'ai lus, la bizarrerie, la cocasserie, la fantaisie, tout registre naturellement que Hugo n'ignore pas, bien loin de là, l'éclat de l'image vive et surprenante ne me paraissent pas avoir une fonction pensante aussi évidente que dans les contemplations ou la légende des siècles. Et peut-être est-ce la limite des mises en abîme dont j'ai parlé. Mais je suis peut-être injuste, et je sais bien après tout que des reproches similaires ont pu être adressés à Hugo dans l'entre-deux-guerres, reproches qui eux me semblent injustes. Donc peut-être que vous ne serez pas d'accord, et je serais ravi que vous me contestiez là-dessus. Ce n'est en tout cas qu'une intuition, qu'une question, et nous avons toute la journée et au-delà pour en discuter. Je vous remercie.
C'est magnifique. Moi, j'ai particulièrement apprécié la mise en contextualité de ce poème dans la Nouvelle Revue française. Effectivement, c'est grâce à Jean Paulhan qu'il a pu accéder à ce nirvana de la littérature française à son époque. Et c'est Jean Paulhan aussi qui l'a découvert, en quelque sorte, hein, avec Jean Cassou. Et donc, cette mise en contexte, elle est très bien. Quant à la folie, effectivement, je crois que la Côte-de-Bertie est très, très ludique, peut-être un peu plus que Victor Hugo. Je ne crois pas qu'il ait tellement la tête philosophique, mais là peut-être, je ne sais pas, d'autres...
C'est ce que dit Jean-Yves Guérin dans...
D'autres questions peut-être, d'autres...
Oui, le côté agressif du premier poème, je me demande en fait s'il n'attaque pas plutôt les Hugophobes, parce que c'est... quelqu'un qui crache alors sur les dents de son père, c'est-à-dire, à l'époque, Hugo est considéré encore comme une sorte de père à abattre. Et est-ce qu'il se moque pas justement de tous ceux qui crachent sur le père ?
Alors, bah oui, vous avez raison, merci pour cette remarque. C'est l'ambiguïté de ce passage au discours direct que j'ai intégré un peu. Au départ, je ne pensais pas en parler dans ce moment où j'expliquais que le poème était agressif à l'égard de Hugo. Il y a des moments dans le poème où le jeu lyrique, Audiberti, est agressif. Ça, c'est incontestable. Il n'y a pas l'écran du discours direct, du discours rapporté. Alors, effectivement, ici, on peut se demander dans quelle mesure c'est une simple citation distanciée, ou s'il n'y a pas aussi, sous couvert de un autre dit terrible, disons, une sorte de rapport... une complaisance à citer. Vous voyez, une sorte de complaisance à... sous couvert de faire parler un autre, à reproduire des injures, tout en les euphémisant, bien sûr, par le fait qu'elles sont dans la bouche de quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu indécidable, je sais pas trop quoi dire d'autre, mais il n'en reste pas moins que, dans le poème, en général, le mot sournois est assumé par Audiberti, je te démasquerai, c'est assumé par Audiberti, même les lèvres bovines, hein, fais les harpes mugir sous tes paumes divines, fais les flûtes tonner sous tes lèvres bovines, Agnès Piquel avait analysé la rime divine-bovine.
Oui, bon. Mais c'est vrai qu'Audiberti s'amuse beaucoup aussi, très souvent. Alors, est-ce que c'est de l'agressivité? Est-ce que je m'amuse un petit peu à attaquer ce père
C'est de l'agressivité ludique.
C'est de l'agressivité ludique, voilà, on va dire ça. On va dire ça. Et ce que j'aurais voulu dire aussi, c'est le côté obscur de Hugo. Il a déjà été constaté bien avant, par exemple, par Proust, qui considère que Hugo et d'autres sont des poètes obscurs, mais parce que ce sont des novateurs, et qu'arrivera un jour où on les comprendra mieux. Alors c'est peut-être une autre manière de dire qu'ils sont obscurs, mais bon, ça a été dit d'une certaine manière par certains, notamment Proust, au début du siècle.
Chez Proust, alors il met le thème du Hugo obscur dans la bouche de personnages ridicules aussi. Je ne sais plus quel aristocrate de la recherche.
Non, mais là je parle de ses textes critiques.
D'accord. Okay.
Après il y a rien, la discussion dans la recherche, c'est autre chose, mais dans ses textes critiques, il est toujours considéré comme un novateur qui paraît obscur justement à ceux qui le lisent à l'époque.
Oui, il y a Proust, il y a Barrès aussi, qui dit des choses semblables dans son journal. Oui, bien sûr, on n'a pas attendu Gustave Simon, mais il y a un mouvement critique qui se lance à partir du moment où quand même les tables tournantes, enfin, parlantes de Jersey sont publiées par Simon en 23, et derrière il y a toute une mode critique et universitaire qui se greffe là-dessus. Mais il y a évidemment des prédécesseurs renouviés même à la fin du 19e déjà, enfin, dans le champ philosophique.
Et du reste, il peut être maître de même de Liberty, qui aime bien l'obscurité, l'hermétisme, et donc, à partir de là, on peut le penser comme novateur également.
C'est le luxe. Voilà. Si je peux vous faire découvrir ces textes, qui sont vraiment pétillants, c'est très curieux, finalement, parce que le poème Hugo...
qui ressemble à une espèce de pastiche, avec ces deux qui font une espèce de pas de côté. Mm-hmm. Alors, j'avais une question. Est-ce que ce pas de côté n'est pas emprunté à Apollinaire, alcool, qui casse le verre comme ça, mourir, c'est baiser comme un éclat de verre. Et d'autre part, est-ce que ce poème est beau, dans sa simplicité, dans ses raccourcis, dans ses synesthésies, n'est pas finalement un écho de la légende des siècles? Parce qu'il y a ce ramassis de mythes, d'artistes, de poètes, de créations, de visions monde dans ce poème.
Oui, je dirais que là où il y a une... disons qu'il y a une dimension cosmique dans les deux poèmes. Voilà, je dirais comme ça peut-être. Dans la légende des siècles, disons, dans le recueil, puis dans d'autres poèmes de Hugo, bien sûr, et dans celui d'Audiberti. C'est-à-dire qu'il y a une... ce que j'ai aussi appelé un jeu sur les échelles. On va
l'océan
du bas en haut, les cimes, les gouffres. Bon. Ça, c'est très hugolien, effectivement. La légende des siècles en particulier, pourquoi pas, oui, entre autres. Je suis d'accord avec cette... Oui, oui, c'est dans la légende des siècles et d'autres poèmes de Hugo sont des intertextes. Sur le côté foisonnement de mythes...
Mais pour en jouer.
Pour en jouer, oui, non, j'hésite à être complètement d'accord, parce que dans la légende des siècles, les choses sont plus séquencées quand même. Il y a quand même des poèmes isolés. Bon, enfin, bien sûr, il y a des. Le tournoiement, je ne sais pas, je n'ai pas de poème de Hugo en tête qui me vienne et qui puisse illustrer ce. Tournoiement d'images baroques et aussi, en tout cas, aussi heurté que chez Audiberti. Il y en a sans doute. Vous pensez à...
Là, je pense à plusieurs poèmes très courts, mais pas forcément sur l'araignée, par exemple.
Oui.
Sur des références pascaliennes, quelquefois. Toujours sur le jeu de la polysémie. Et c'est-à-dire que l'image n'est pas en soi, de moins en soi, elle est stimuli. Et chaque fois, on est sur le rebond. Et c'est ça qui est très très étonnant dans ces deux poèmes, sur le rebond de signification.
Oui, oui. Oui. Il y a quand même, chez Audiberti, un travail volontaire de l'incohérence entre les images. Il y a, en fait, il y a une conflagration d'images, il y a une manière de laisser le sens se dégager, mais par association d'idées, etc. Alors que Hugo est souvent plus, presque, je dirais, c'est pas un terme péjoratif, mais didactique. Enfin, il nous guide plus quand même dans le champ de manière d'ailleurs.
Et sûr, ouais. Alors, et peut-être la volonté aussi de bousculer.
Et sur Apollinaire, oui, peut-être. Oui, Apollinaire est quand même l'un des grands noms qui contribue à une réforme de la versification au début du siècle, de manière plus radicale qu'Audiberti, hein, puisque Audiberti n'a jamais pratiqué le vers libre.
Il y a un exemple ou deux.
Un exemple ou deux.
Mais c'est pas le vers libre.
Oui. Et donc évidemment, d'un point de vue rythmique et métrique, tous les poètes ultérieurs en sont tributaires d'une manière ou d'une autre. Hein. Même si je crois savoir que Audiberti n'aimait pas trop Apollinaire.
C'est ce que j'ai dit, effectivement.
Mais après, on est influencé même par ceux qu'on n'aime pas.
Bien sûr.
Surtout peut-être.
Pourquoi il n'aime pas Apollinaire? Pourquoi?
Ça n'explique pas trop. Je crois que le côté lyrique le gêne un peu.
Ah oui.
Mais effectivement, la rupture du verre, qu'on trouve aussi beaucoup chez Victor Hugo.
Oui.
Donc moi, je pense que la brisure du verre viendrait davantage de chez Hugo que de ce problème-là.
Dans le théâtre,
bien sûr.
Parce que chez Audiberti, il y a une acceptation pour tout la poésie. Et ça se voit dans les livres d'Audiberti qu'il y a vraiment... Et ça se voit dans, comment dirais-je, les enfants naturels. Et qui considèrent, par exemple, la feuille blanche comme une feuille... La sainteté de la feuille blanche est liée à que Stéphane Mallarmé, dans le poème « Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée », qui consacre vraiment, c'est-à-dire que la feuille blanche, la sainteté de la feuille blanche est liée à quelque chose sacré, c'est le lait sacré de sa mère. Et là, Audiberti, il développe complètement cette idée dans un œuvre, les enfants naturels, c'est-à-dire ne sont pas les enfants de notre mère et de notre père, mais nous sommes les enfants de ce lait sacré. Et ça, c'est extraordinaire à travers l'œuvre d'Audiberti, parce que ce que j'ai vu, en tous les cas, ce que j'ai lu, à travers Dimanche Matin, la poésie d'Audiberti, c'est qu'il y a vraiment une acceptation. Mais il y a toujours cette, comment dirais-je, ce classique chez lui, d'être vraiment classique, d'être vraiment un homme du XVIe siècle, un homme qui veille sur le passé, qui relie du soleil. C'est-à-dire que je reste fidèle à la syntaxe classique. Et dans le poème de A Cocteau, il dit l'hiver libre, libre de n'être pas des vers. Mais quand même, on le sent chez Audiberti qu'il y a. Regarde la grandeur de son œuvre, Dimanche Matin, en l'honneur de la vie, aux funèbres trompettes, j'entreprends d'écouter dans mon corps, or jour par jour, l'écho de ce futur qui ne cesse dès qu'on le touche de devenir et du passé. Ça, c'est vraiment c'est extraordinaire de commencer. Dimanche matin, avec vraiment des alexandrins, mais se sont liés à la prose. Et là, Audiberti, il considère que la prose, ou la poésie, elle reste toujours une sainte écriture. Et c'est pour ça, dans l'œuvre d'Audiberti aussi, quand il dit, les gens qui ont accusé Audiberti du délire verbal, il dit, réglons notre affaire ensemble, ami. Je me sers des mots. C'est entendu, je n'ai plus rien. Les mots sont d'autres que moi s'en sont servis, plus mal. Pourtant, il faut continuer. La sainte écriture n'est pas finie. Je n'ai que ma vie à vous raconter. Certains goupillent des percolateurs, réparent des anémomètres, moi ma vie. Les mots, tout ça mâché au même sac, resalivé, retapissé. Prenez-le comme ça vient, prenez-moi comme je suis. Non pas un très utile goupilleur ou réparateur, mais un jalon, au cas où vague de notre humanité perplexe, celle du moins qu'il est. Les morts, il faut les attraper vivants. Et si vous aimez mieux intact, en faire entre fonds, vous risquez de les abîmer à jamais. Ça, c'est beau, vraiment, comme. Et bravo, c'est extraordinaire.
Vous connaissez bien
l'auditeur. Oui, oui. Ben, merci, simplement.
En tout cas, Mallarmé, oui, bien sûr, pour Laurent. Ouais.
Peut-être on peut rappeler ce que Audiberti disait à la radio, racontait ses premières inspirations de poète. Certainement, il avait envie de faire une légende des siècles, et il a cherché pendant des jours et des jours une rime à siècle. Et il n'y en a pas, sauf Sainte Thècle. Il n'a pas utilisé. Peut-être on peut rappeler sur les ruptures rythmiques dans les vers. Peut-être on peut quand même se souvenir que la bataille d'Hernani a été déclenchée sur une phrase qui est boite un tout petit peu, juste une phrase. Alors les rimes d'Audiberti boitent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'implications, il y a des mélanges d'époques. Mais d'ailleurs, je crois quand même qu'à un moment donné, Audiberti, ou quelqu'un qui a conseillé Audiberti, a souffert de ce qu'on pourra appeler l'ésotérisme. Une apparence d'ésotérisme. Et je crois que c'est Jean-Paul Lan qui lui a conseillé d'écrire des poèmes un peu plus accessibles. Et c'est curieux parce que ça a donné le recueil Ange aux entrailles, que je trouve extraordinairement plus compliqué que le poème du début. Mais voilà, ce problème de l'ésotérisme et de la clé qu'on n'a pas, la clé, la cabale, quelque chose qu'on n'arrive pas à déchiffrer, c'est quelque chose qui rôde un peu dans les premiers poèmes d'Audiberti et dont il a cherché à se débarrasser. D'ailleurs, il a aussi fait quelque chose d'un peu plus clair dans le roman avec Le Maître de Milan. Il a essayé d'être plus classique, ce qui n'empêche pas qu'il arrivait à faire s'intercaler et s'imbriquer les époques, les notions, de manière apparemment fantaisiste, mais toujours avec des associations d'idées qui, d'après moi, ne sont pas gratuites, mais ça, c'est effectivement quelque chose qui reste encore à déchiffrer.
Merci.
Merci. Merci, Laurent. Merci. Eh bien, donc, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci. C'était donc un bel exposé. Merci.